Alléluia, Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier aussi pour les personnes âgées. Je suis aussi moins vieux, on va prier pour les personnes âgées, mais il y en a d'autres qui sont aussi âgés, vieux. Et qui ne sont pas encore rentrés en Christ. Mais il y a aussi des jeunes. On aimerait que tout le monde puisse entrer, être prêt. Ça, c'est une chose vraiment qui touche nos cœurs. Donc nous allons prier afin que le Seigneur... Vous savez, je pensais à cette parole de... la parole qui se trouve dans Jean, je pense. Donc je perds 2 minutes pour cela. Quand Jésus a vu Nathanaël sous le figuier, quand elle s'est approchée, quand Nathanaël s'est approché de Jésus, Jésus lui a dit, voici un homme. Un hébreu sans fraude. Vraiment quelqu'un de saint. Un bon israélite, dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Alors il dit, mais tu me connais d'où ? On sait que le frère Branham, souvent, il s'est référé à quelques passages des Écritures, comme aussi la femme au puits, et d'autres versets comme ça. Et d'autres passages des Écritures. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que justement, Nathanaël a dit, mais tu es vraiment un fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a eu un impact. Et je crois que l'Église aujourd'hui attend d'entrer dans cette position-là. Afin que c'est les derniers, donc ceux qui sont dans le besoin, donc ceux que nos cœurs désirent, que eux viennent à la foi, c'est-à-dire nos parents, nos enfants, qu'il puisse y avoir quelque chose de ce genre-là. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Qu'il se passe quelque chose comme ça, afin que la foi s'accroche à quelque chose de réel. Et puis qu'il puisse vraiment venir à la grâce de Dieu. Il est entré dans le corps du Christ, dans le pâturage, donc je pense à ça. C'est vrai, lui il t'a reconnu parce qu'il y avait une action, que Dieu puisse se manifester des actions comme ça parmi son peuple. Des actions surnaturelles. Qu'il y ait des signes surnaturels. Que Dieu nous bénisse encore ce soir. Nous allons incliner nos têtes. Merveilleux Père Céleste, nous venons au nom de Jésus-Christ. Nous venons à toi. Nous sommes dans ta présence. Nous croyons que tu es au milieu de nous et nous croyons tes promesses. Et tout ce que jusque maintenant tu nous as recommandé de voir, d'accepter, de croire, et surtout cette pleine révélation. Et tu nous fais entrer dans cette révélation toujours plus, tu nous fais voir des choses merveilleuses, voir tout ton plan, tout ce que tu as prédestiné pour chacun d'entre nous. Il est vrai encore qu'il y a encore beaucoup de besoins, et on voit autour de nous des choses dans les cœurs, les désirs qu'il a dans le cœur des enfants. Qu'il puisse vraiment y avoir une action de ta part, une action surnaturelle dans cette Église. Pas seulement ici, dans cette petite assemblée, mais dans l'Église du Dieu vivant, qui se trouve aux quatre coins de la terre. et que une action surnaturelle puisse avoir lieu sous l'autorité de ton esprit. Et les âmes qui doivent venir, les personnes qui doivent encore entrer, qu'elles puissent encore s'approcher de toi et croire de tout leur cœur que tu es toujours le même Dieu. Et que, à travers tes enfants, à travers tes rachetés, ils puissent te voir. Ils puissent réaliser que tu es là. Fais grâce. Fais-nous vivre encore pleinement ta parole. Encore ce soir, fais-nous toucher le bord de ton vêtement. Tu connais le désir de nos cœurs. Fais que nous puissions être toujours plus semblables à toi. Fais-nous grâce pendant la lecture de ta parole, tout ce qu'on lit, les prédications, les lettres circulaires, les écrits de ton serviteur, le frère Franck, que tu puisses toujours nous affiner toujours plus, afin qu'on puisse être prêt à recevoir tout ce que tu as prévu pour ton Église. Ce saut définitif, cette action définitive, cette pluie définitive, de façon que ton action puisse se mouvoir, ton esprit puisse se mouvoir. Bénis ton œuvre, l'œuvre de tes mains que tu as fait depuis le commencement. À toi, l'honneur, l'adoration, les remerciements. Tous les cœurs ici croient ta parole. Et tous ceux qui écoutent croient ta parole. Et que ce soir, il puisse encore y avoir une bénédiction particulière. Afin que on puisse se toucher de nos mains, et avec nos cœurs et avec l'esprit. À toi l'honneur, la louange, le remerciement au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu donne cette force nécessaire pour voir l'œuvre, l'esprit à l'œuvre. Nous allons lire. Donc on est arrivé à la page 61 en italien, dans la compilation du frère Franck. Donc c'était la lettre circulaire 33 de janvier 1987. Donc, voilà, ce n'est qu'au moment où des frères et des sœurs se rendent compte que le diable les a trompés de façon très raffinée, au moyen de passages et de citations bibliques, qu'ils peuvent se libérer de sa séduction et être arrachés à sa sphère d'influence. D'un côté, ils savent qu'ils sont le fruit de ce ministère institué par Dieu, car ils ont accepté la parole avec joie. Et d'un autre côté, on leur montre l'image d'un criminel sans scrupules. On ne peut s'imaginer dans quel embrouillement des hommes peuvent être projetés de cette façon. Ils savent qu'ils ont affaire à une charge d'origine divine. Mais cependant, se laissent influencer au point d'éviter une personne et de ne pas avoir de communion avec elle. Il est hors de doute que c'est Satan seul qui produit une telle situation. C'est lui qui entra en Juda avec l'intention de faire échouer le plan divin. C'est ce qu'il a essayé de faire ici même. Donc, vous savez ce qui s'est passé dans l'église de Krefeld. Voilà donc le résultat. C'est ce qu'on est en train de lire ici. Et comme je crois qu'on l'a déjà dit, quand le diable est découvert, mis à nu, il a perdu sa force. Il a perdu, disons, cette puissance sur les frères, sur les personnes, sur les familles. Et je crois qu'on l'a aussi dit l'autre jour, je le répète, et nous-mêmes, alors, on peut devenir des chasseurs. Des chasseurs, c'est-à-dire des gens qui peuvent démasquer le plan du diable, les pensées de l'ennemi. Qu'il puisse vraiment y avoir cette action qui puisse venir. Donc, ce qui s'est passé, ce qui se passe encore maintenant, ce qui s'est passé à Krefeld, ça se passe encore maintenant dans les églises, encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au sein des églises, au sein des familles, il y a le plan du diable. C'est ça. C'est celui de contredire, de lutter contre la parole. Et le plan de Dieu, c'est de libérer, de donner la force, donner la foi au peuple de Dieu, donner la foi. C'est ça la différence. Donc ici, donc il faut vraiment entrer dans les pensées de Dieu. Donc déjà nous-mêmes. Proverbe 26:26. Depuis l'histoire d'Élisée avec le roi de Syrie, on a déjà dit la dernière fois. Mais lui, il était prophète, c'est vrai. Bien sûr. Mais cet esprit de prophète, de prophétie, je crois qu'il est encore au milieu de l'Église, parmi l'Église. Et que le Seigneur puisse toujours plus nous faire toucher le bord de son vêtement, de façon que nous puissions recevoir de lui la vision juste, l'interprétation juste, la parole juste. Alléluia. Je continue. Ce ne sont pas les frères d'ici, lesquels depuis plus de 25 ans prêchent la parole, qui ont menti et trompé le peuple de Dieu. Mais bien plutôt ceux qui les accusent de faire cela. Vous voyez ? Il n'y a rien eu de faux dans la proclamation de la parole. Et c'est aussi pourquoi il n'y a rien qui doive en être corrigé. Les rôles ont été inversés et les vrais coupables rejettent le tout sur les autres. Donc, ça c'est l'histoire des jumeaux. Comme je le disais dimanche, l'histoire des jumeaux se répète tout le temps. Pourquoi des jumeaux ? Vous voyez, Caïn et Abel, ils étaient jumeaux. Et naturellement, entre eux, il n'y avait pas une bonne entente. Et l'un, il voyait l'autre d'une manière, l'autre d'une autre manière. C'est comme s'il s'accusait, d'une certaine manière. Je ne sais pas comment dire. Vous voyez, il y avait encore, il y a encore Jacob et Ésaü, Saoul et David, Jésus, Judas. Jérémie, Ananias, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples comme ça. Même s'ils ne sont pas jumeaux de sang, mais ils sont aussi, ils sont proches en adoration, vous voyez. Donc, aussi le dernier jumeau, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous, que d'une face grâce de le voir, il y a la foi et l'incrédulité. Ça, ce sont des jumeaux aussi. Ils sont là, ils sont là. Ils sont vraiment là, la foi et la crédulité. Qu'est-ce qu'il faut écouter ? Ah, mais moi, j'ai raison. Non, non, c'est moi qui ai raison. Alors, comment on fait pour savoir qui a raison ? Qui dit la vérité de Dieu, voyez ? Dieu doit nous faire grâce d'avoir vraiment le discernement. On a lu des passages des Écritures. Je pense qu'on a lu ça l'autre jour. Donc, je continue ici. Également les frères, venus de l'extérieur, ont suivi ce que les sœurs séduites... On est arrivé là, hein? Et j'avais mis ici une date. Donc on est arrivé ici, hein? Non, on n'avait pas lu ça la dernière fois. Donc également les frères, venus de l'extérieur, ont suivi ce que les sœurs séduites et soi-disant spirituelles leur ont ordonné. Satan voulait rendre non crédibles les frères servant le message et détruire l'influence de leur prédication. Ça, c'est clair et net. On l'a subi, ils l'ont subi et on va encore le subir. Vous voyez ? La malédiction de l'interdit est maintenant rompue au travers de ce dévoilement. Donc, quand le voile est découvert et quand on reçoit la révélation directe de Dieu, de la vérité, alors automatiquement, le diable ne peut plus rien faire. Fini, terminé. On a vaincu la bataille, comment dire. Et c'est là qu'on écrase la tête du serpent. Il nous a fait mal, mais on l'écrase. Voilà, je continue. Donc chacun peut s'en aller libre au nom du Seigneur. On rentre ici maintenant dans la lettre circulaire 39 de janvier 1993. Le titre, c'est « Questions et réponses ». Sans cesse, on me demande de donner une réponse biblique concernant le mariage, l'adultère, le divorce. Pourquoi ces questions? Pourquoi y a-t-il encore un manque de clarté? N'est-ce pas assez clair dans la Bible? Frère Branham n'a-t-il pas traité ce thème de façon détaillée sur l'ordre direct du Seigneur? D'où vient cependant que plusieurs manquent de clarté? Le Seigneur n'a-t-il encore pas ouvert l'intelligence à ce sujet? Et n'a-t-il toujours pas donné de révélation? Vous voyez? Parce que, en effet, il semble que on mange la parole et puis on l'oublie. On dirait qu'on la reçoit, on reçoit une réponse, une révélation, la réponse, et puis après, on l'oublie. À proprement parler, toute la thématique de l'Ancien et du Nouveau Testament a été traitée en profondeur et éclairée de tous les côtés. Se pourrait-il que plusieurs qui veulent sans cesse avoir de nouveaux éclaircissements sur ce thème important ne veuillent à proprement parler pas de réponse réellement fondée sur la Bible, mais défendent leur opinion préconçue et s'attendent à ce que leur vue traditionnelle soit confirmée. Voyez? Parce que quand on n'accepte pas pleinement la parole et on ne se soumet pas à l'autorité de la parole de Dieu, naturellement, il y a un autre esprit qui vient. Une autre position arrive. Et c'est ce que le frère Franck est en train d'expliquer ici. Et c'est vrai. Et ça, on le reconnaît tous. Et c'est la réalité. Sur le thème du mariage, de l'adultère et du divorce, je me suis décidé à faire connaître l'exposé neutre du lexique de la Bible de Fritz Rienecker, édité par Brockhaus Verlag. Donc j'espère que c'est bien prononcé en allemand. Donc le frère Franck ici donne, cite ici du lexique de la Bible. L'homme ne peut pas rompre son propre mariage. L'adultère ne concerne que des relations, que la relation intime d'une femme mariée ou fiancée avec un autre homme, Exode 20, 17, Lévitique 20, 20. Vous pouvez déjà les noter et les lire plus tard. Donc on a déjà lu ces choses-là le jeudi. Si un tel adultère est découvert, les deux, l'homme comme la femme, mourront tous deux par lapidation. Deutéronome 22, 22. Si la femme participant à cet acte n'était pas libre mais esclave, l'homme devait seulement présenter un sacrifice pour délit. Lévitique 19, 20 à 22. Si un homme a des relations intimes avec une jeune fille, non mariée ni fiancée, il doit la prendre pour femme et payer sa dot, même s'il est déjà marié. Et il n'aura jamais le droit de renvoyer cette femme. Donc il n'aura plus le droit de la réputer de la renvoyer. Lévitique 22, 16 et Deutéronome 22, 28. La lapidation d'une jeune fille fiancée n'est applicable que lorsque la séduction s'est accomplie en ville, là où elle aurait pu appeler à l'aide. Deutéronome 22, 24 et 25. Donc il ne suffit de s'arrêter là-dessus, c'est clair. Donc, c'est-à-dire, c'est la parole qui nous apporte ces considérations justes. Par ces sévères prescriptions, on voulait empêcher l'éclatement de mariage. Et c'est vrai. Dieu a donné toutes ces lois, donc, expressément pour ça. Parce que comme on l'a dit, donc je dis simplement ça. Donc, vous voyez, l'adultère, c'est-à-dire la lettre de divorce pour pouvoir renvoyer la femme, c'était une chose qui n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Vous voyez, c'était une volonté permissive que Dieu a donnée parce que Moïse, voilà, à Moïse, parce que Dieu a utilisé Moïse à cause de toutes ces choses dans le cœur de l'homme, l'endurcissement du cœur de l'homme. Et on voit plus tard comment on descend toujours plus profondément pour connaître nos âmes, nos cœurs, nos pensées. et comment on a vraiment besoin de purger tout, totalement tout, d'enlever tout, totalement tout, la vieille, toute la vieille nature, et laisser la nouvelle nature. Parce que ça se trouve en nous. C'est vrai. Il faut que la nouvelle nature prenne toute la place. Donc, par ces sévères prescriptions, on voulait empêcher l'éclatement de mariage. Des passages comme Proverbes 2, 16 à 19, 6, 24 à 35, 7, 5 à 27, vous les avez écrites dans vos brochures, vous pouvez les lire aussi, nous montrent combien l'adultère était répandu. Ça, vous pouvez les lire. Hein. Finalement, le divorce est aussi un privilège exclusif de l'homme. Quand on dit privilège, c'est-à-dire que la femme n'a pas le droit de divorcer. C'est pas la femme qui doit repousser l'homme. C'est pour ça qu'on dit un privilège exclusif de l'homme pour divorcer. Vous avez compris cette pensée. C'est important. Parce que c'est seulement l'homme qui peut dire « je divorce ». La femme, normalement, elle dit jamais « je te divorce ». Elle ne dit pas ça. Aujourd'hui, oui. Puisqu'on vit dans une époque dans laquelle on vit, depuis que les choses sont allées comme ça de travers. Donc, d'après Deutéronome 24:1, on connaît tous ce passage, il a le droit de renvoyer sa femme s'il a trouvé en elle quelque chose de malséant, de vilain, de méchant. Quelque chose de malséant. Cette prescription donne lieu à de trop nombreuses interprétations. À l'origine, elle n'était valable que pour des relations impudiques. Je ne sais pas si on dit en italien pudici, impudique. Donc, des relations impudiques. Mais du temps de Jésus, les docteurs de la loi étaient prêts à accorder ce droit à l'homme de renvoyer sa femme pour un déplaisir futile. Il devait alors lui donner une lettre de divorce, comparée à Ésaïe 50, verset 1. On va lire cela, Ésaïe 50, verset 1. Parce que comme on l'a toujours dit, que Dieu nous fasse grâce. Et que ceux qui écoutent puissent aussi avoir cette grâce. C'est que la femme, Dieu l'a toujours représentée comme l'Église. Voilà pourquoi il y a des restrictions plus particulières pour la femme que pour l'homme. Parce que c'est un type indiscutable. C'est indiscutable. De l'Église. Israël et l'Église. Vous voyez, l'Église gentille. C'est un type. Voilà pourquoi c'est important de lire cela. Ésaïe 50, verset 1. Donc ici, on parle directement à tout le peuple d'Israël. À tout le peuple d'Israël. Ainsi dit l'Éternel, où est la lettre de divorce de votre mère que j'ai renvoyée? Ou qui est celui de mes créanciers auquel je vous ai vendu? Voici, vous vous êtes vendu par vos iniquités, et à cause de vos transgressions, votre mère a été renvoyée. Vous voyez comment on fait le lien? Pourquoi suis-je venu? Il n'y a eu personne. Pourquoi ai-je appelé? Il n'y a eu personne qui répondit. Vous voyez? Il y a vraiment de quoi prêcher ici. Ma main est-elle devenue trop courte pour que je puisse racheter? Amen, alléluia. De pouvoir régler toutes choses. Enlever l'iniquité, enlever le péché, enlever toute mauvaise situation. Donc, je continue, le frère Franck dit. Donc, il devait alors lui donner une lettre de divorce sur base de laquelle elle retournait dans la maison de ses parents et pouvaient se remarier. Lévitique 22, 13. Si un homme a pris une femme, donc Deutéronome 22, 13, si un homme a pris une femme et elle est allée et est allée vers elle et qu'il la haïsse et lui impute des actes qui donnent occasion de parler et fasse courir sur elle quelques mauvais bruits et dise j'ai pris cette femme et je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père de la jeune femme et la mère prendront les signes de la virginité de la jeune femme et le produiront devant les anciens. Oui, tout ça, c'est inclus. Donc, on parlait ici que le divorce est un privilège exclusif de l'homme, mais en fait, Dieu est la séparation, le divorce. Donc, Lévitique 22, 13. Donc, tout à l'heure, on a vu aussi Deutéronome 22, le 24 aussi. Donc je relis. Lévitique 22, 13. On relit. Si un homme a pris une femme et est allé vers elle et qu'il haïsse, et lui impute des actes qui donnent occasion de parler et fasse courir sur elle quelques mauvais bruits, et dise « J'ai pris cette femme et je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Alors le père de la jeune femme et sa mère prendront les signes de la virginité de la jeune femme et le produiront devant les anciens de la ville à la porte. Donc voilà, on apporte les preuves. Et là, il y a la sanction à payer. Donc je continue sur le frère Franck. Donc, sur base de laquelle elle retournait dans la maison de ses parents et pouvait se remarier. Du moins, ne devait-elle pas, sans doute pour empêcher l'arbitraire, redevenir la femme du premier mari, même après la mort du deuxième mari, ou après qu'elle aurait été à nouveau renvoyée. Deutéronome 24.4. Donc on avait lu Deutéronome 24.4, comme il est écrit, c'est mieux qu'elle... Bon, c'est pas toujours comme ça que la femme peut se réconcilier. C'est pas toujours comme ça. Il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas. Alors, en plus du cas d'une jeune fille non mariée qui a été séduite et que l'homme n'a pas le droit de renvoyer, celui-ci perd aussi ce droit au divorce lorsque, après la consommation du mariage, la femme est faussement accusée de ne pas avoir été vierge. Deutéronome 22, 13 à 19. Les prophètes avaient non seulement condamné l'application à la légère de la répudiation, donc comparé Malachi 2, 16. On peut lire Malachi 2, 16. Malachi 2, verset 16. On croit que le Seigneur fait grâce. Parce qu'il ne faut pas mélanger avec Abraham quand Sarah lui a dit de prendre garde. Et quand Jacob a dû épouser les deux, parce que là, il y a eu ce beau-père qui lui a fait des blagues. Il a vraiment forcé à épouser l'autre femme. Et il lui a fallu encore attendre 7 ans pour épouser celle qu'il aimait. Voilà, ici, donc, voilà, Malachie 2,16. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel. Donc, Or, prenez garde à votre esprit et n'agis pas perfidement envers la femme de ta jeunesse, car je hais la répudiation de l'Éternel, le Dieu d'Israël. À quoi on se réfère ici? Surtout, on se réfère à qu'on rencontre le Seigneur, on fait partie de l'Église de Jésus-Christ, vous voyez? Et cette première femme, donc la jeunesse, donc, je continue. Donc, il a appelé au-dessus. Cependant, elle est ta compagne et la femme de ton alliance. Verset 14, 15. Et un seul ne les a-t-il pas fait? Toutefois, il avait le reste de l'esprit. Pourquoi ce seul a-t-il fait ainsi? Il cherchait une semence de Dieu. Oh, prenez garde à votre esprit et n'agis pas perfidement envers la femme de ta jeunesse, car je hais la répudiation de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Gardez-vous. N'agissez pas perfidement, vous voyez? Donc il faut un cœur sincère, un cœur ouvert, un cœur clair et net. Donc je continue ici. Donc je continue ici. Donc ici, les prophètes avaient non seulement condamné l'application légère de la répudiation, mais ils l'avaient en général combattu et fait valoir que la monogamie était la seule forme morale possible, comparé Osée 2, 16 et Ésaïe 54, 5. Donc il y a toujours un cœur mauvais, ou alors il y a vraiment une vraie réalité. Il faut faire attention. S'il y a un mauvais cœur qui veut se débarrasser, il est sous le jugement. Bon, on va lire ici. Donc, c'est ainsi que le Seigneur, dans le Nouveau Testament, rejette le divorce lorsqu'il déclare que ce n'est qu'à cause de la dureté de leur cœur qu'il avait été autorisé. Matthieu 19, 3 à 10. Marc 10, 2 à 12. C'est ici qu'il est question pour la première fois que l'homme puisse rompre son propre mariage. Matthieu, verset 11. Et que le regard de convoitise sur une autre femme est stigmatisé comme étant un adultère. Matthieu 5, 28. Donc vous vous souvenez de cette histoire où on a apporté cette femme adultère et Jésus a pardonné. Jésus a clairement déclaré que le renvoi de la femme l'expose à commettre l'adultère et conduit à la rupture du mariage, verset 32. Une seule exception est faite, si ce n'est pour cause de fornication, Matthieu 19, 9. À cette occasion, il emploie, Dieu emploie un mot très fort qui signifie davantage qu'infidélité ou adultère. Vous voyez? Voilà pourquoi Dieu ne pardonne pas quand un croyant, maintenant je parle de l'Église maintenant, homme ou femme, je parle de croyant dans l'Église, sort du corps du Christ. Pour quelle que soit la raison, il part, il sort du corps du Christ et il laisse. Vous voyez? Il laisse le mari, il laisse l'Église, il laisse le Seigneur, là où il y a le Seigneur. Vous voyez? Vous comprenez? Vous avez compris, hein? Donc c'est important. Voilà ce que c'est. Voilà pourquoi c'est grave. Donc je mets l'accent là-dessus, hein? Cette infidélité, c'est plus qu'une infidélité. C'est très grave. Et Dieu n'accepte pas qu'on le rejette. Jésus reconnaît, à l'égard de la femme adultère, le pardon et la réconciliation. Jean 8, 2 à 11, comparé Deutéronome 22, 26. Que Dieu vraiment nous fasse grâce et nous aide à comprendre parfaitement la position juste de l'homme et de la femme. Amen. Ça, c'est important. Vous savez, plus on va de l'avant, plus on entre profondément dans la révélation, dans le plan de Dieu. Mais ça ne doit pas nous décourager, au contraire. Ça doit ouvrir nos cœurs à la réalité divine. Et on peut louer le Seigneur de tout notre cœur et le remercier. Parce qu'il est en train de mettre en lumière toutes choses, de façon que notre vie soit parfaite en Christ. Alléluia. Vous voyez ? Ici, le frère Franck a écrit lettre circulaire 41 de janvier 1994-1994. Un extrait. Lettre circulaire 41 de janvier, donc c'est une suite, hein? C'est la suite. Donc on continue ici. Voilà, le frère Franco avait coupé en deux parties. Voilà, donc ici, je lis. Frère Franck écrit. Pour l'instant, l'Église de Christ n'est pas encore. Attention. Attention ici. Que Dieu bénisse nos cœurs. Attention. Pour l'instant, l'Église de Christ n'est pas encore un seul cœur et une seule âme. Le corps du Seigneur est tellement déchiré comme jamais auparavant. Frère Branham disait dans une prédication, le corps le plus malade que je connaisse est le corps du Seigneur. Il se référait à la parole de Jérémie 8, 22. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point là de médecin? Car pourquoi n'a-t-on pas appliqué un appareil de pansement à la fille de mon peuple? Que dirait frère Branham aujourd'hui? Ceux qui se réclament de lui se trouvent dans un état pire que celui de tous les autres. Jamais dans l'histoire de l'Église, un tel chaos n'a eu lieu à la suite d'un réveil. Faites bien attention, mes amis, à ces paroles. C'est vraiment profond, faites bien attention. Pourquoi est-ce que frère Franck dit ça? On va d'abord lire, encore une fois dans nos Bibles, Jérémie 8, 22. Prenons Jérémie 8, 22. Pourquoi le Seigneur dit ça? Parce qu'en réalité aujourd'hui, dans la grâce de Dieu, quand les deux parties sont bien disposées, et surtout, bien sûr, si une des deux parties n'est pas disposée, bien sûr, c'est comme à Krefeld, hein? On l'a vu à Krefeld. La femme là, donc l'ancienne femme, donc on voit automatiquement que cette chose là c'était pas faisable, parce que là lui il avait demandé de rester ensemble, mais elle n'a pas voulu, vous voyez. Donc quand les deux parties sont bien disposées, gloire à Dieu, alors là il y a du baume, le baume, c'est-à-dire la pommade, le baume qui de Galate qui intervient, il y a la parole juste qui intervient, il y a le conseil juste qui intervient. Il y a l'esprit juste qui intervient sur le couple, sur la personne. Et les choses peuvent se régler sans arriver au drame, à l'extrême, sans arriver à la limite. Alors on dit, quoi, n'y a-t-il pas de baume? C'est cette parole. Et cette parole, on peut l'utiliser pour toutes les choses, pour toutes les situations qui peuvent arriver dans l'Église de Jésus-Christ, dans les familles, dans... On peut appliquer cela partout. Il suffit que les deux parties soient donc dans un consensus. Donc on lit ici dans Jérémie 8. Donc Jérémie 8, l'extrême apostasie d'Israël et l'inévitable châtiment. Ça, c'est le sous-titre qu'il y a dans sa Bible. 8, 22. On relit, n'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point là de médecin? Car pourquoi n'a-t-on pas appliqué un appareil de pansement à la fille de mon peuple? Voyez? Moi, je vous ai dit, je vous ai toujours dit qu'à chaque réveil, il y a une répercussion. Parce que le diable n'accepte pas, il ne le veut pas, le réveil. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la bataille, il perd la bataille. Ça a toujours été comme ça. Il perd la bataille. Voilà pourquoi, dans ces derniers temps, ces derniers jours, même à cause de ce Covid, de ce confinement, Dieu continue à parler à son peuple, à son Église, pour faire voir exactement, profondément son plan, et lui faire comprendre, et nous faire entrer nous-mêmes. Pour moi, c'est au-delà. Au-delà des inconvénients, au-delà des problèmes que ça peut causer. Même au-delà des morts, des séparations, au-delà de toutes ces choses-là qui se produisent, même parmi nous, dans l'Église, chez les frères et les sœurs dans le corps de Christ, mais quand même, il y a une bénédiction qui est là. Parce que Dieu nous fait voir vraiment combien on a perdu et combien on a perdu de choses dans les années passé, mais je ne vais pas commencer à prêcher. Maintenant, je vais commencer à lire Jérémie 45. 46. Jérémie 46, 11. Et comprenez ce que Dieu veut nous faire comprendre. Jérémie 46, 11. Jérémie 46, 11. Très important. Monte à Galade et prends du baume. Le baume de Galade, c'est particulier, hein? C'était vraiment spécial. Monte à Galade et prends du baume, comme de la pommade. Vierge fille de l'Égypte, en vain tu multiplies les remèdes. Il n'y a... Moi, j'ai une traduction ici. J'ai une traduction comme des médicaments en italien. Je prends une autre traduction, la Luzzi. Donc je relis 46, Jérémie. 46. Monte à Galade, prends du baume, vierge fille de l'Égypte. En vain, tu multiplies les remèdes. Parce que ici, dans une autre version, j'avais les médicaments. Vous voyez, en vain, il n'y a point de guérison pour toi. Les nations ont entendu ta confusion. Vous voyez, des fois, quand on ne va pas profondément dans la racine, on fait les choses en vain. Même si je mets des médicaments, un baume, une pommade, je ne vais pas guérir. Ça ne va pas guérir. Faites bien attention. Regardez aujourd'hui la médecine. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid. Regardez un peu. Pourquoi ? Parce que c'est pas précisément, ça vise pas la chose précisément à l'origine. On utilise tous les instruments possibles et imaginables. Oui, bien sûr. Pour pouvoir justifier soi-même, justifier les actions, justifier les choses qui ont été faites. Et je mets un baume, je mets une pommade. Mais c'est un médicament qui est fait par toi. C'est toi qui l'as fait. C'est pas le médicament que Dieu veut. C'est pas celui qui vient directement du trône de la grâce. Alléluia. Vous comprenez? C'est important. En vain, tu multiplies les remèdes. Il n'y a point de guérison pour toi. Et aujourd'hui, les églises dénominationnelles, celles qui ne se sont pas soumises au baptême de Jean, je répète, celles qui n'ont pas accepté le baptême de Jean, ont rendu nul le plan de Dieu pour eux. ceux qui n'ont pas reconnu le messager du temps de la fin maintenant, William Mario Branham, ceux qui n'ont pas reconnu encore maintenant Matthieu 24, 45, 47, pas comme simplement une suite spirituelle de ce que Dieu fait. Ils ont rendu nul tous leurs médicaments à eux, tous leurs baumes à eux pour être guéris. Vous comprenez? Vous êtes? C'est important, c'est profond. Ils ont rendu nul, nul, nul. Les nations ont entendu ta confusion et ton cri a rempli la terre, car l'homme fort a trébuché sur l'homme fort. Ils sont tombés tous deux ensemble. Il n'y avait pas de médicament pour le guérir. Un fort est tombé sur un fort. Il n'y avait pas. Parce qu'ils n'ont pas accepté ce que Dieu donnait. Tous les deux sont tombés. Et puis on parle après de Nebuchadnezzar, de Babylone, du roi. On dit que ceux qui étaient forts sont aussi tombés. Parce qu'ils n'ont pas accepté ce qui venait de Dieu. Et aussi le peuple d'Israël, surtout le peuple d'Israël. Donc ce baume, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui? Oui, il existe encore aujourd'hui. Je parle au nom du Seigneur. Que ce soir, qu'il puisse y avoir vraiment, et qu'on puisse vraiment reconnaître qu'en Christ, seulement en Christ, il y a la guérison et il y a la parole juste pour la guérison. C'est seulement lui. Seulement la parole ointe, révélée au moment juste, qui produit la guérison et qui enlève tout mal de toute chose. Voilà pourquoi, si nous, on ne parle pas. C'est-à-dire, si le diable n'est pas découvert, donc je retourne à ce que j'ai dit, si le diable n'est pas découvert, dévoilé, il va toujours rester là. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de baume qui va exister pour guérir cette chose. N'est-ce pas? Alléluia. Dieu nous bénisse. Et qu'il nous fasse réaliser les choses qui doivent être comprises. Donc je continue ici le frère Franck. Que dirait frère Branham aujourd'hui? Ceux qui se réclament de lui se trouvent dans un état pire que celui de tous les autres. Jamais dans l'histoire de l'Église, un tel chaos n'a eu lieu à la suite d'un réveil. Du fait de cette situation, qui semble, à vue humaine, sans espoir, ceux qui se sont proclamés eux-mêmes être des serviteurs de Dieu, qui se réclament du prophète et de ses paroles, se retrouvent sans même avoir reçu un appel divin pour prêcher la parole de Dieu. Voyez? Eux-mêmes ont semé la semence de discorde et occasionné les séparations. Voyez? Donc, vous vous souvenez de la vision que le frère Branham a eue avant d'aller au-delà de l'océan, quand il devait aller en mission? Le Seigneur l'a arrêté et il lui a demandé d'emmagasiner la nourriture et de retourner parce qu'il y avait des gens qui voulaient le suivre, qui voulaient absolument aller avec lui. Et lui est revenu pour emmagasiner la nourriture. Et il y avait une vision qu'il a eue avec une grande armoire, avec beaucoup de tiroirs. Et le frère Franck a eu la même chose. Et il a vu le frère Franck l'a expliqué aussi. Et il y avait des frères qui ouvraient tous ces tiroirs-là, qui prenait la nourriture, parce que ces tiroirs-là, nous, on sait ce que c'est. En Sicile, les anciens comme moi, on a vu ce que c'est. Donc, il y avait un tiroir avec le riz, un tiroir avec la pâte, il y avait des céréales, des fèves, et on allait avec un sachet, et on se servait comme ça. Donc là, dans cette vision, il y avait des frères qui venaient et qui faisaient tout tomber, qui piétinaient tout, qui faisaient tout tomber de tous ces tiroirs et qui prenaient n'importe quoi. Il prenait n'importe quoi et il jetait tout à terre. Prenons un peu Matthieu 13. C'est très important, on connaît, mais c'est très important. Prenons Matthieu. Parce qu'après un réveil, il y a toujours l'ennemi qui vient. Il ne devrait pas, mais il vient toujours. Matthieu 13. Matthieu 13, 25. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi les froments et s'en alla. Et lorsque la tige monta et produisit du fruit, alors l'ivraie aussi parut. Vous voyez? La pluie qui vient. Dans Matthieu 5, il y a une pluie qui vient sur les justes et sur les injustes. Vous voyez? Donc automatiquement, après un réveil, même à Krefeld et tous les autres réveils, l'ennemi vient et il sème aussi. Il sème toujours la mauvaise herbe, l'ivraie, sans problème. Parce que le frère Franck dit que ce sont des gens qui n'ont jamais eu de vocation divine pour prêcher, d'appel divin pour prêcher. Et ils ont semé la semence de discorde. Que Dieu nous aide à réaliser le temps dans lequel on vit et comment on le vit. Donc eux-mêmes ont semé, frère Franck dit, eux-mêmes ont semé la semence de discorde et occasionné les séparations. On sait ce qui s'est passé en Allemagne, mais on sait ce qui s'est passé en Belgique, on sait ce qui s'est passé à Liège, on sait ce qui s'est passé en Sicile, à Palerme, dans toutes les villes du monde, où le réveil a, où la parole a rosé, où la parole a créé un réveil, où il y a des gens qui ont été baptisés, où il y a vraiment des gens qui se sont approchés de la parole. Il y a vraiment eu quelque chose que Dieu était en train de mettre en action, et il l'a mis en action, vraiment. Matthieu 24 aussi. Matthieu 24, 45 aussi. Comment les personnes ont rejeté, refusé. Donc, je continue à lire, le frère Franck écrit. Donc, eux ont semé la semence de discorde et occasionné les séparations. Mais il s'agit maintenant de distribuer la nourriture spirituelle mise en réserve et de publier tout le conseil de Dieu. La table du Seigneur doit être préparée de la même manière juste devant nous. Voilà Matthieu 24, 45, 47. Il partage avec tous ceux que Dieu a choisis, que lui, Dieu a choisi. Et on apporte le même message. Comme on faisait au commencement, sans interruption, sans contrariété, comment dire. La table du Seigneur doit être préparée de la manière juste devant nous. Comme cela a été exprimé dans la parole d'introduction, les serviteurs requis pour combattre en faveur de la vraie foi et de la connaissance de la vérité sont ceux qui s'avèrent être comme élus remplis d'une sainte piété, comme une dévotion. C'est juste de dire en italien la dévotion. Pourquoi? Parce que réellement, celui qui entre, donc ces serviteurs qui sont là, si on prend Matthieu 24, donc je dis ça pour rentrer dans ces détails. Pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup de problèmes? Voilà pourquoi. Parce que ici, on parle des gens de la maison. D'autres ont divers noms, des gens de la maison, on parle de domestiques, on parle de serviteurs. C'est-à-dire tous ces gens qui se relient ensemble. Ils sont tous un. Ils sont vraiment tous un dévolus à ce service. Donc l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ, les élus de Dieu, ils sont vraiment consacrés. On sait très bien que les frères aiment le Seigneur. Bien sûr, on le sait très bien qu'ils ont été rachetés. Mais il y a encore, mais il n'y a pas une dévotion totale, une consécration totale pour rentrer, parce que c'est ça qui est important. Parce que je ne peux pas vivre séparé de ma maison à moi. Je suis dans ma maison. Vous comprenez? Je suis dans mon foyer. Je dois reconnaître que je suis dans mon foyer. Donc tout ce qui est dans mon foyer, dans ma maison, c'est à moi. C'est à nous, c'est nôtre, vous comprenez, vous avez compris. Donc tout ce qui est dans le corps du Christ, c'est ça la dévotion, la consécration. C'est qu'on est tous dans, ensemble, il n'y a pas de différence entre ça c'est ta maison, ça c'est ma maison, non, c'est notre maison, c'est la maison de Dieu, vous comprenez spirituellement ce que je veux dire. Il y a un amalgame, on est tous ensemble pour la maison de Dieu. On travaille ensemble pour la maison de Dieu. Donc c'est pas difficile ce que je dis. On va lire, donc je ne dis pas des choses graves. Il est vrai que dimanche on va à l'église, il est vrai qu'il y a des choses qu'on fait indépendamment de l'église, bien sûr, il faut faire des choses à la maison, bien sûr, mais ce détachement, s'il y a un détachement spirituel, donc on peut parler du physique, mais s'il y a un détachement spirituel, il n'y a pas de dévotion, il n'y a pas de consécration. Je ne fais que croire, c'est tout. J'arrive pas à trouver la parole juste, mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Prenons un peu 1 Chronique. Lisons 1 Chronique. Parce que des fois, on se sépare. On le fait souvent, et on fait encore ça aujourd'hui. Et on continue de séparer l'Église de mon foyer, de ma maison, c'est-à-dire de ma famille, mes enfants, ma personne. On dirait que je sépare. Si vous pensez que c'est juste pour moi, c'est pas ce que le frère Franck dit ici. Donc, je vais lire dans 1 Chronique. 1 Chronique. 29. 3. C'est David qui parle. Regardez bien un peu le type de cette personne, ce serviteur, cet exemple, ce symbole que cet homme de Dieu, que Dieu s'est choisi selon son cœur. Donc à partir du premier verset, 1 Chronique 29. Et le roi David dit à toute la congrégation: Salomon mon fils, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et délicat, et l'ouvrage est grand, car ce palais n'est point pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. Faites attention à toutes les paroles. Et moi, de toute ma force, j'ai préparé pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or et de l'argent, etc., etc. Il continue. Et on arrive au verset 3. Et de plus, dans mon affection pour la maison de mon Dieu, je donne pour la maison de mon Dieu de ce que j'ai d'or et d'argent, m'appartenant propre. Donc il était participant, le roi David pouvait dire, ça je mets le côté, c'est à moi, c'est pour mon fils, ça n'a rien à voir pour la maison de Dieu. Non, vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est la dévotion. La consécration. Dans l'Église catholique, vous savez, pour faire dévot à Marie, par exemple, ou au Padre Pio, vous comprenez le mot dévotion. Ça veut dire qu'il rentrait en harmonie totale dans ce système. Avec ce que. Donc ici, je dois rentrer entièrement dans ce que Dieu a choisi pour moi. Faire partie. Faire être participant de la nature divine. Être participant de tout ce que Dieu voulait donner. Deutéronome 7 aussi. Deutéronome 7. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi il y a des problèmes qui n'ont pas été inspirés par Dieu. Ils ont causé tous ces problèmes. Deutéronome 7. Je dois chercher encore un peu. Donc j'ai encore un petit moment. Lisons à partir du verset 6, Deutéronome. Lisons le contexte. Je vous laisse lire après le contexte. Deutéronome 7, lisons à partir du 6. Car tu es un peuple saint, consacré à l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Dieu n'a pas donné de l'affection à toi ou moi parce qu'on avait quelque chose de spécial, mais c'est son choix. La parole affection, c'est important que Dieu nous aide. L'Éternel t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple. Donc ce n'est pas parce que vous étiez, verset 7, plus nombreux que tous les peuples, que l'Éternel s'est attaché à vous, bien avoir de l'affection en italien, et vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous a aimé, donc ça vient de l'amour de Dieu. Pas particulièrement pour mon frère ou ma soeur, mais c'est pour Dieu. Parce que lui, il m'a pris, il m'a inséré à faire partie intégralement du corps de Jésus-Christ. Donc je suis une partie intégrale. Amen. J'aimerais vraiment utiliser d'autres paroles précises pour faire comprendre, pour m'exprimer. Malheureusement, je n'ai que ces paroles. Faire partie intégrante. Je ne peux pas sortir. On ne peut pas sortir de ce que Dieu donne. On est un avec lui. On est participant avec lui. C'est tout. Voilà. Tout ce qui se passe, disons, dans l'Église, ça touche tout le monde. Tout ce qui touche un frère, ça me touche. Tout ce qui arrive à une sœur, ça arrive à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous y êtes? Parce qu'on est tous l'un et l'autre ensemble dévoués. Et parce qu'il a, je continue, verset 8, mais parce que l'Éternel vous a aimé et parce qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir à main forte et t'a racheté de la maison de servitude de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Connais donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu fidèle, etc. Donc c'est particulier, c'est merveilleux. Amen. Si on est pieux envers Dieu, c'est parce que Dieu nous a choisis d'abord. Comme on l'a lu, il a eu l'affection, il nous a aimés. Verset Deutéronome 7-8. Donc, il nous a tellement affectionnés, il nous a tellement aimés qu'il nous a pris. Il y a aussi Deutéronome 10-15 aussi. Deutéronome 10-15 aussi. Cependant, l'Éternel s'est attaché à tes pères pour les aimer. Et il vous a choisi, vous, leur semence, après eux, d'entre tous les peuples, comme il paraît aujourd'hui. Circoncisez donc votre cœur, et ne roidissez pas ou n'endurcissez pas votre cœur, votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux, est le Dieu des dieux, et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand et puissant et terrible, qui ne fait point exception de personne, et qui ne prend pas de présent, donc de corruption, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, et qui aime l'étranger, pour lui donner le pain et le vêtement. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse ton cœur. 1 Corinthiens 12, 25-26. À partir de 24. Tandis que nos membres descendent, n'en ont pas besoin. Vous connaissez ce verset, cette parole de Dieu, amen, concernant le corps. tandis que nos membres descendent n'ont plus besoin, n'en ont pas besoin, mais Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un égal soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Alléluia, vous voyez? Il y a aussi un Pierre aussi. On peut aussi le lire, si vous voulez, un Pierre. Chapitre 1er. On parle encore de dévotion, de l'affection, de cet amour que Dieu a eu pour nous. Parce que si lui ne nous aimait pas le premier, nous, on ne pouvait pas non plus l'aimer. C'est lui qui nous a aimé le premier. C'est lui qui nous a trouvé, qui a trouvé mon nom avant même que je naisse. Avant même que tu sortes du sein de ta mère. Ça, c'est glorieux, mes amis. Amen. Premier épître de Pierre. Chapitre 1er. 22. 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, pour que vous ayez une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous l'un l'autre ardemment, d'un cœur pur, vous qui êtes régénérés ou nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. C'est Dieu qui fait cela. C'est Dieu qui nous donne cette sainte dévotion. Une sainte dévotion, attention. C'est une parole qui m'a frappé en italien, dévotion, dévotion. C'est important. Une consécration. Que Dieu nous aide. Donc on peut dire la piété ici. Ah, le pronom. Donc je continue ici, le frère Franck ici. Je continue ici. Déjà, frère Franck dit, déjà ici, nous sommes sauvés en Dieu par sa grâce. Nous demeurons dans la parole et prouvons notre foi dans une marche selon la piété. Les élus sont caractérisés dans la pratique par une marche en accord avec la parole de Dieu. En accord avec la parole de Dieu et une manière de vivre pieuse. Vous voyez? Donc ça va ensemble. Donc une fois que vous avez été touché, une fois que votre cœur est dévoué à Dieu, est donné à Dieu, à l'unique Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, qui est venu en chair en Jésus-Christ. Alors tout cela, ça suit, ça va de l'avant, ça continue. Ça prend son chemin, ça prend sa forme. Voilà pourquoi, maintenant je vais vous lire dans 2 Corinthiens 13. Donc c'est le dernier chapitre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Approprié. 2 Corinthiens, chapitre 13. Donc c'est verset 5. Examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Quand vous voulez, le matin ou le soir, pendant la journée, chaque fois qu'on a un petit moment de hauts, des bas, des fluctuations, des difficultés, dans le cours de votre vie, des situations difficiles, alors je dois toujours regarder pour voir si je suis de la foi. Donc je dois contrôler ou examiner si on est de la foi. Faites l'expérience vous-même. Donc faites l'expérience vous-même, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez des réprouvés. Mais j'espère que vous connaîtrez que nous ne sommes pas des réprouvés. Donc il y a une action intérieure, où toi et moi, on se regarde à l'intérieur. Et on regarde exactement si on est dans la bonne position. Alléluia. Vous voyez? Donc, je continue ici, le frère Franck. Ce n'est que lorsque nous nous regardons tout à fait sincèrement dans le miroir de la parole que nous reconnaîtrons notre propre état et constateront ce qu'il en est réellement de nous. Ça, on le sait tous, on reconnaît tout cela. On est tous d'accord que si on nous regarde, si on se regarde à l'intérieur, si on fait bien attention à nous-mêmes, on peut mettre toute chose à sa place. Sur l'écriture, et on voit s'il y a quelques imperfections. Et on peut régler toute chose après. Avant de sceller son alliance avec le peuple, attention à cela, hein? Attention aussi. Avant de sceller son alliance avec le peuple du Nouveau Testament, le Seigneur dut lui adresser des paroles d'exhortation. Il nous présenta l'homme naturel dans son ancien état. Donc il nous a décrit, il nous a fait voir l'homme naturel de son ancien état. Écoutez-moi, vous tous, et comprenez. Il n'y a rien en dehors de l'homme qui, entrant au-dedans de lui, puisse le souiller. Mais les choses qui sortent de lui. Donc c'est un passage, hein, des Écritures. Donc dans Matthieu et dans Marc. Et ici c'est le passage de Marc que le frère Franck lit ici, écrit ici. Mais les choses qui sortent de lui, ce sont celles qui souillent l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et quand il fut entré dans la maison, s'étant retiré de la foule, ses disciples l'interrogèrent touchant cette parole, cette parabole. Et il leur dit, vous aussi, êtes-vous ainsi sans intelligence? N'entendez-vous pas que tout ce qui est de dehors, entrant dans l'homme, ne peut pas le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et s'en va dans le lieu secret, purifiant toute viande. Et il dit, ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme, car du dedans, du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Vous voyez? Donc voilà, on parle de tout ce qui sort de son esprit. Dans différentes épîtres, Paul se rapporte à tout ce qui souille l'homme, comme par exemple dans Romains 1, 29 à 32, étant rempli de toute injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Donc il parle des gens d'aujourd'hui, donc de ce que nous vivons maintenant, ce qu'on vit maintenant. C'est toujours difficile. Hein? Ça devient de plus en plus difficile. Plein de cupidité, de malice, d'envie, de meurtre, de querelle, de fraude, de mauvaises mœurs, délateurs, médisants, haïssables pour Dieu, outrageux, hautains, vantards, inventeurs de mauvaises choses, désobéissant à leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis. Même ça, je l'ai souligné. Si c'est pas croyant, déjà, parmi les croyants, on a des difficultés à trouver des gens qui maintiennent ce qu'ils ont dit. Mais imaginez un peu dans le monde. Ils ne sont pas capables. Ils vous disent une chose, ils promettent une chose, et puis ils en font une autre. Regarde un peu le gouvernement d'aujourd'hui. Regarde un peu les situations qu'il y a autour de nous. Vous voyez? Ils vous promettent des choses, et puis ils ne font pas la chose. Ou bien ils le font, mais à votre malheur. Donc c'est terrible. Ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans miséricorde, et qui, ayant connu la juste sentence de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais encore trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent. Donc ils sont vraiment des personnes qui sont loin de Dieu, sans amour, sans grâce, sans rien du tout. Dans Galates 5, donc ça, c'est donc la découverte de la nature de l'homme naturel. La découverte de l'homme naturel. on sait comment nous sommes, on connaît notre nature charnelle. Donc une partie que l'apôtre Paul veut dire, veut nous faire voir. Dans Galates 5, depuis le verset 19, l'apôtre décrit les deux sphères de l'être humain. Celle de la marche dans l'esprit et celle de la marche selon la chair. Très important, c'est profond et c'est pour nous, attention, c'est actuel maintenant. C'est maintenant. La manière d'être, le mode, la façon d'être d'une sphère résiste à la manière de l'autre et ne peut s'y soumettre. C'est-à-dire, il y a une sphère qui ne peut pas se soumettre à l'autre. La chair ne peut pas se soumettre à l'esprit. Parce que c'est impossible. L'un est né dans le péché, l'autre est né par l'esprit. Donc il y a une difficulté là. Il y a une grande difficulté. Donc on voit toujours cette lutte entre ces deux identités de la personne. Deux identités, il faut les reconnaître jusqu'aujourd'hui. Donc on marche toujours, on continue à lire ici. C'est pourquoi l'Écriture parle d'une lutte entre ces deux manières de vivre et termine en présentant aux croyants l'ancien et le nouvel homme avec toutes les particularités de chacun. L'homme ancien et l'homme nouveau. Avec toutes les particularités de chacun. Donc, que ce soit le croyant, c'est deux sphères aujourd'hui. Donc, vous allez comprendre ces deux. Et on va parler ici, malheureusement, qu'il ne faut pas de mélange, il faut une séparation. Il faut une séparation de ces deux choses. Donc, je ne blague pas. Donc c'est la vérité. Quand on lit ça, on doit dire, Seigneur, fais que vraiment la vieille nature s'en aille, puisse être complètement séparée de la nouvelle, et fais que la nouvelle nature puisse prendre le pas, le dessus sur l'ancienne nature. Fais qu'aujourd'hui de l'Église de Jésus-Christ, après avoir reçu la parole de révélation, le message du temps, de la fin, le message de notre temps, nous puissions arriver vraiment à cette séparation où le grain, c'est le grain, et la zizanie, c'est la zizanie, et l'ivraie, c'est l'ivraie. Et tout est bien séparé. Donc Dieu doit vraiment nous faire grâce. Il est vrai que on vit comme ça, mais Dieu doit nous faire grâce. D'avoir cette prise de position, cette connaissance juste. Parce qu'il s'agit de cela. Une vraie libération. Alors à ce point-là, on va revenir à ce qu'on a dit au commencement. Quand Jésus a cherché ses disciples, c'est dans Jean. Quand Jésus s'est présenté avec Nathanaël, voilà, et la chose est sortie spontanément. Parce qu'il n'y avait que cette partie-là qui était mise en avant. Jésus est né aussi dans la chair, parfaitement dans l'homme, mais aussi parfaitement Dieu. Mais la suprématie, la chose la plus glorieuse, ce qu'il a pu être, c'est la partie spirituelle. Le Fils de Dieu a pris le pas entièrement. En soumettant totalement la chair, en soumettant totalement la partie charnelle de l'homme, dont nous avons tous hérité de nos pères, qu'on a hérité de Adam, d'Ève, etc. Donc je continue à lire ici. Donc dans Galates 5, je lis, or les œuvres de la chair sont manifestes. Lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les querelles, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Versets 19 à 21. Donc je relis. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Lesquelles sont la fornication, la pureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Versets 19 à 21. Voilà. Éphésiens, lisons Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Il y a beaucoup d'autres passages, mais j'ai retenu certains versets. Éphésiens 2, 15. À partir du verset 13. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ, car c'est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un, et a détruit le mur mitoyen de clôture. C'est lui qui a vaincu. Il a vraiment vaincu la séparation qu'il y avait entre la chair et l'esprit. Il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe, si c'est possible. Mais néanmoins, non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Vous voyez, il a eu la suprématie de l'esprit. Et c'est pour cette heure que je suis venu, vous êtes. Vous voyez comme c'est glorieux, je continue ici. Donc c'est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un et a détruit le mur mitoyen de clôture, ayant aboli dans la chair, dans sa chair, l'inimitié. La loi des commandements, qui consiste en ordonnances, afin qu'il créa les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau, en faisant la paix. On peut comprendre ça. C'est pour ça que dans notre corps, il y a toujours cette lutte. Le mal que je n'aimerais pas faire, je le fais. Et le bien que j'aimerais faire, je ne le fais pas. Et comme on l'a lu, comme on en a dit dimanche, il y a des frères qui l'ont dit, Carmelo Gianfranco, il avait dit, comme c'était guidé, vous voyez, Dieu nous a vraiment bénis. Vous voyez, Romains 7, on a tout réalisé. Cette séparation est maintenant faite. Dans un même corps, le Seigneur a annulé cette inimitié. Donc on peut vaincre, la bataille sur la chair et que le spirituel puisse prévaloir sur ce qui est charnel. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Et je crois que Dieu peut le faire. Cette parole est précieuse. En faisant la paix et qu'il les réconcilia tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix, ayant tué par l'inimitié. Amen. Et d'abord Éphésiens 4, 22. Éphésiens 4, 22. À partir du verset 20. Éphésiens 4, 20. Mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ. si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit en lui, selon que la vérité est en Jésus, c'est-à-dire en ce qui concerne votre première manière de vivre. Voilà, on parlait du réveil initial. Et ensuite, l'ennemi s'est introduit. On dirait qu'il y a quelque chose qui a été perdu en chemin. Mais qu'est-ce qu'on a perdu en chemin? Si on va dans Apocalypse 2, ou 3 plutôt, je crois, on voit que la première église d'Éphèse a perdu quelque chose d'important. N'est-ce pas? L'amour. Elle a perdu l'amour pour son Seigneur. Elle s'est éloignée. Parce qu'il y avait des difficultés qui étaient assez grandes. Voilà pourquoi Matthieu 24, 14, 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez? C'est important, mes amis, que Dieu vraiment fortifie notre foi et glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc on a déjà lu cela. Donc je continue ici, le frère Franck, ici. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, on l'a lu. Immédiatement, nous sont décrits les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi, verset 22. Il n'y a pas de loi. Parce que l'amour de Christ accomplit toute la loi. C'est écrit comme ça. Chacun peut se considérer et s'éprouver devant cette description comme s'il se trouvait devant un miroir, en face d'un miroir. Personne n'a besoin d'être particulièrement spirituel pour constater laquelle des deux listes le concerne. Nous sommes enclins à classer les œuvres de la chair selon notre propre représentation. Et nous les jugeons plus ou moins graves, toujours selon notre propre représentation, voyez. Mais Dieu classe chacune des faces de cet être, entre guillemets, diabolique humain. Voilà, frère Franck, vous voyez comment il écrit, un être, entre guillemets, diabolique tiré humain. C'est vrai parce que Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. N'est-ce pas? Alléluia. Ça, c'est la réalité, mes amis. Si on regarde la réalité en face, on voit vraiment comment Dieu nous a tant aimés. Il a eu de l'affection, comme on l'a lu, pour nous. Il a eu de l'affection envers nous. Et il nous a élus avant que le monde soit. Et quel est l'amour que nous lui rendons? Est-ce que ce ne devrait pas être une dévotion totale, une consécration totale? Alors Dieu classe chacune des faces de cet être, entre guillemets, diabolique humain. Parce qu'il est écrit que tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux comme ça. La chair ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. La chair va rester ici, fini. C'est seulement l'homme spirituel, l'homme surnaturel qui va subsister. Que Dieu s'est choisi pour porter son nom. Donc Dieu classe chacune des faces de cette... Donc c'est pas qu'on fait des différences. Hein. Il faut aussi... Nous, les gens, les hommes, on dit ça c'est grave, ça c'est moins grave. Non, tout, c'est Dieu qui classe ces choses. Donc Dieu classe les faces de cet être diabolique humain dans un seul catalogue commun. Et pareillement, pour ce qui concerne les facettes de ce qui est humain-divin. comme on l'a lu, on a parlé des deux sphères qui se présentent, l'homme ancien et l'homme nouveau. Voilà, il y a l'homme ancien et l'homme nouveau. L'homme vieux qui est toujours rebelle et l'homme nouveau qui doit marcher par la foi et glorifier le Seigneur. Et l'homme ancien qui est toujours là, qui est toujours un peu, qui est toujours... qui a toujours la voix au chapitre, on peut dire. Jean 3, 6, je vais le citer. Quand il est dit la nouvelle naissance, ce qui est chair à chair, ce qui est esprit est esprit. Ce qui est esprit est esprit. Automatiquement, on peut vraiment réaliser qu'il y a cette scission. Voilà pourquoi il parle de la nouvelle naissance, qu'il faut naître de l'esprit. On est comme le vent, on ne sait pas où il va, d'où il vient. Et c'est comme ça pour ceux qui sont nés de nouveau, parce que c'est une nouvelle vie, c'est une vie complètement diverse. Il est vrai qu'on a des contacts avec la terre, on a des contacts avec l'humanité. Mais Dieu a vaincu l'humanité. Dieu l'a vaincu en Jésus-Christ. Moi, je crois de tout mon cœur que Dieu l'a vaincu en Jésus-Christ. Il nous a aussi vaincu, nous. Il nous a aussi vaincu, nous. Parce que s'il nous a aussi vaincu, s'il ne nous avait pas vaincu, ce soir, on ne serait pas là. Même s'il y a encore des hauts et des bas, même si on ne fait pas encore de différence à 100%, Dieu nous a fait grâce et nous sommes là. Amen. Merveilleux. Amen. Donc je continue. Le frère Franck écrit. Mais au commencement de cette liste sont nommées des choses à l'ouïe desquelles bien des croyants secouent la tête avec horreur. La fornication, la pureté, l'impudicité, l'idolâtrie et la magie. Oh, Dieu, c'est vrai. Mais on est tous les mêmes. On ne peut pas dire différemment. On est tous les mêmes. Mais tout le reste de cette liste noire sont des choses exactement aussi mauvaises aux yeux de Dieu. C'est pour dire que tout est dans le même chaudron pour Dieu. L'humanité entière, l'homme diabolique tiré humain. L'homme diabolique humain. Donc, mais tout le reste de cette liste noire sont des choses exactement aussi mauvaises aux yeux de Dieu. C'est-à-dire les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies. Mais maintenant, je vous ai écrit que si quelqu'un, appelé frère, est fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez pas de commerce avec lui, que vous ne mangiez pas même avec un tel homme. 1 Corinthiens 5, 11. Amen. C'est ce qu'on avait lu jeudi passé. Donc, et on avait donc insulté le frère Franck avec ces choses-là, avec ces versets. Donc je continue. Celui qui ne se rend pas coupable des choses grossières qui viennent d'être énumérées, mais qui cependant trame de l'inimitié, entame des querelles et des disputes et manifeste de la jalousie, cet homme est tout autant dominé par des puissances démoniaques, Le calomniateur est placé par Dieu au même niveau que le trompeur, l'idolâtre et le voleur. Comme aussi que le chicaneur, donc celui qui se dispute, on peut le dire, oui. Des gens qui cherchent toujours à chicaner, à discuter, à faire des discussions. Comme aussi que le chicaneur, le disputeur, le colérique, et le vulgaire égoïste. Il ajoute, frère Franck, l'égoïsme est toujours vulgaire. Incroyable. Et c'est vrai. Si on regarde l'ancienne nature, l'égoïsme, c'est vulgaire, c'est sale. C'est terrible. Parce que ça remonte à la Genèse, à Caïn. Ça remonte là. Voilà pourquoi c'est vulgaire, c'est sale. C'est un égoïsme pur. Donc je continue. Il produit la division et les sectes. Cet égoïsme vulgaire produit la division, les sectes. L'envie éclate. Donc la rage éclate. Plusieurs. Donc je termine le paragraphe. Plusieurs perdent. Plusieurs. Il produit la division et les sectes. L'envie éclate. Plusieurs perdent le contrôle d'eux-mêmes, se retirent, alors que d'autres tombent dans l'ivrognerie et les orgies comme les cripoles. Peu importe combien les arguments propres des uns et des autres peuvent sembler clairs, mais celui qui se rend coupable de ces choses apporte la destruction dans le corps du Seigneur, et lui-même ne verra pas le royaume de Dieu. Amen. Donc vous voyez, je m'arrête ici. Donc je m'arrête ici. Vous voyez combien... Notez la profondeur de ces paroles. Comment ça nous relie toujours à l'être spirituel de Dieu. Et à l'être humain. Dieu nous fait voir ses fautes. Dieu nous fait voir les choses dont il faut s'éloigner. Vous voyez. Et combien de problèmes on a eu dans le passé. Combien d'épreuves qu'on a eues. Combien de travail il fallait faire pour arriver jusqu'à la fin ici. Et Dieu nous révèle toutes ces choses. Millimètre par millimètre. Parfaitement. L'un dans l'autre. Encastré l'un dans l'autre. Et Dieu libère les cœurs. Mes amis, je le dis de tout mon cœur. Il met en liberté les fils et les filles de Dieu. Et il nous propulse, disons. Il nous met en avant pour pouvoir recevoir cette pluie. Amen. Et pour faire cette séparation et recevoir cette pluie de la première et de la dernière saison que nous tous, comme il a été dit, on est en train d'attendre. Vous y croyez? Amen. Moi, je crois que oui. Moi, je crois que oui de tout mon cœur. Afin qu'on soit net, pur, propre. Pas seulement le sang de Jésus-Christ nous purifie, mais aussi l'esprit est purifié. L'esprit est propre. Même s'il y a encore un peu de confusion, là où il y a encore des choses qui ne sont pas en place, que là, l'esprit met ces choses en place. C'est vrai, Seigneur, tu as raison. Je dois encore contrôler cela. Je dois encore voir cela. Alléluia. C'est une réalité. Amen. Une réalité divine. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Il nous a fait vraiment grâce. Et ensuite, on peut lire le dernier paragraphe après. On peut le lire plus tard. Remercie soit le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous avez été bénis. Amen. Est-ce que vous avez été imprégné de ce que le Seigneur nous a donné comme éclaircissement? C'est une bénédiction. C'est vraiment une grande grâce et une bénédiction. Amen. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur. Qui veut remercier le Seigneur? Donc, frère, il y a des frères qui doivent travailler, comme le frère Jérémy et d'autres. Que Dieu fasse grâce. Ce serait bien. Il faut aussi prier pour Stéphane, pour le frère. Frère Stéphane. Il y a un frère Stéphane pour qu'il faut prier. Il y a un jeune homme. On l'avait connu il y a longtemps. quand il y avait la Sola de Rina, et maintenant qui est rentré avec le Seigneur. Elle venait écouter nos réunions. Maintenant, le papa a demandé à Francesco de prier pour ce jeune qui a la sclérose. Donc, il a des problèmes de muscles, une dystrophie musculaire, quelque chose comme ça, mais il ne sait même plus parler. On croit que Dieu est capable de le toucher. Amen. Une chose est certaine, on a réalisé, et on regarde toujours ça, on réalise toujours de plus que Dieu ne fait accepter de personne. Frère Branham priait pour tout le monde, pour tous ceux qui faisaient partie de son église, et aussi pour ceux qui faisaient pas partie de son église, pour les autres de l'extérieur. Et la prière est un don de Dieu pour tout le monde. Mais est-ce qu'on veut que cette personne puisse être touchée par l'Esprit? Pas seulement guérie, mais qu'elle puisse aussi venir à rencontrer les frères et aussi vivre la parole. C'est ça aussi le désir. Que le Seigneur fasse cela. Comme ici pour tout le reste. Pour le besoin qu'il y a, comme on l'a dit au début. J'aimerais prier moi aussi, mais Donc je prie, et puis vous, j'aimerais aussi que d'autres aussi prient. Je sais que le temps passe. Merveilleux Jésus, nous te remercions, Seigneur. Nous n'avons pas de parole pour t'exprimer notre reconnaissance, notre joie et la grâce que nous avons reçue de ta part pour tout ce que tu nous dis, tout ce que tu nous révèles, jour après jour. Les secrets qui étaient cachés, mais toi, Seigneur, tu les révèles aux petits-enfants, aux humbles, aux petits-enfants comme nous. Et nous te remercions pour cela. Oui, Seigneur, que ta bénédiction descende sur nous. Et surtout, pour ce qui a été dit, pour tous les gens dans le besoin. Nous avons besoin d'une intervention d'en haut. Et c'est seulement toi qui as en main la guérison. Nous avons la foi, la croyance, et nous croyons que tu es capable de faire quoi que ce soit. Et nous croyons de tout notre cœur que tu es capable de toucher ce jeune, d'atteindre aussi cette femme-là en Belgique, de toucher les malades, les personnes âgées, tous les jeunes qui doivent venir à toi. Tu es capable de le faire, et nous croyons de tout notre cœur que ton bras n'est pas trop court. Le baume, tu nous l'as donné. Tu nous l'as donné, Seigneur. Il y a un baume plus grand que tout. Le baume du Saint-Esprit. Et il est écrit que l'amour vient de notre cœur à travers le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais, ce que tu es en train de faire. Élargis ton bras, allonge ton bras et glorifie le nom de Jésus-Christ. Viens parmi nous, seulement à travers ta manifestation, aujourd'hui, le monde peut reconnaître et reconnaîtra que tu es le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu de ton Église, de l'Église de Jésus-Christ. Viens, Seigneur, fais grâce. Glorifie-toi toi-même, personne d'autre. Glorifie toi-même. Gloire, honneur, adoration à toi, oui Seigneur. Que tu puisses encore convertir les cœurs. Touche les jeunes, les personnes âgées, ceux qui ont besoin d'entrer pour faire partie des rachetés de Jésus-Christ. Oui Seigneur, fais grâce. Merci encore pour cette soirée, pour tout ce que tu nous as donné. Toujours plus, c'est vrai que c'est difficile, mais toi tu nous donnes de manière, tu nous fais entrer par ton esprit et tu nous fais comprendre par ton esprit ce que l'esprit dit à l'église. Merci Seigneur. Amen. Merci pour tout, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur. Parce que tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Et encore aujourd'hui, nous pouvons nous tourner à toi, vers toi, pour invoquer la prière. Comme on l'a déjà entendu, Seigneur, sans regarder la personne, sans acception de personne, nous sommes là aussi pour faire ce service, nous te présentons cette personne qui souffre, ce jeune garçon. Tu connais toutes choses, et nous savons que chacun d'entre nous l'a eu à cœur et a prié. Mais ce soir, nous nous réunissons tous pour faire cette chose. Seigneur, écoute notre prière. Et pour tous les autres que nous connaissons et qui ont des besoins, te remercions pour cette parole que tu nous as accordée ce soir, pour les choses précieuses que tu nous as fait voir. Seigneur, fais vraiment que cette dévotion, ce respect profond, cet amour puisse vraiment être en nous et s'élargir et puisse être l'unique manifestation qu'il peut y avoir dans nos vies, indépendamment des choses que nous faisons dans ce monde et que nous devons faire, mais que ce soit fait à cette lumière, devant ta lumière. Merci pour toutes choses. Bénis-nous, accompagne-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. N'oublie pas de continuer à prier les uns pour les autres. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Dieu vous bénisse tous. Amen. Bonne nuit à tout le monde.